Une connerie.
C'est le canut info.
Ah.
Je ne savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volet et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Canu info du vendredi.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le Canu Info du vendredi. Exceptionnellement pour vous ce soir, on a en direct un envoyé spécial devant la Maison Blanche.
Oui, oui. Bonsoir Véronique, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous entends, oui.
Eh bien écoutez, merci de me donner le micro en même temps, c'est mon boulot. Donc dernière ligne droite entre Joe Biden et Donald Trump. En ce moment, on est devant la Pennsylvanie.
Alex,
ouais.
Arrête, personne va y croire en fait.
C'est
non, je crois que c'est pas une bonne idée en fait, ça va pas marcher.
C'est l'ambiance de brocante là.
Ouais, c'est ça, le son de brocante, ça marche pas du tout. Je crois que on a des camarades du Canu Info là qui ont fait des vrais docs et peut-être on va écouter ça directement. Je suis désolée, mais je crois que ça marchait vraiment pas.
Non, mais c'est pas grave, t'as bien fait de le dire.
Le 20 octobre dernier, les députés ont encore proposé une loi sécuritaire, dite la loi de sécurité globale, qui aura beaucoup de conséquences sur nos libertés et nos droits. Cette loi préconise d'augmenter le pouvoir de la police municipale et des agents privés, de renforcer la vidéosurveillance et notamment l'autorisation des drones, enfin de la surveillance par les drones, et d'interdire que les personnes puissent filmer la police. Ce projet de loi et les amendements déposés ont été examinés le 4 novembre et sera voté entre le 17 et le 20 novembre, dans une espèce de procédure accélérée parce que soi-disant urgente. Alors d'abord, le projet souhaite, je cite de manière expérimentale, accorder à la police municipale des pouvoirs de police judiciaire dans certaines communes, comme par exemple pouvoir procéder à des contrôles d'identité et établir des procès-verbaux. Pour l'instant, c'est pas encore étendu aux agents de sécurité privés. Après, il y a la surveillance en temps réel et la reconnaissance faciale. La loi ajoute l'autorisation de caméras mobiles à niveau d'épaule auxquelles la police aura accès, les caméras piétons. Des technologies de surveillance qui renforcent la gestion des foules, qui déshumanisent ainsi les gens, qui sont alors juste des flux à gérer, à canaliser, etc. Et alors que ces images ne peuvent être encore utilisées qu'à posteriori, la loi autoriserait la transmission en temps réel des images enregistrées de ces caméras individuelles si la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires est menacée, et tout ceci bien sûr selon l'appréciation de ces mêmes agents. Avec cette loi, les drones et autres caméras aéroportées, du genre par hélicoptère, pourraient filmer et transmettre en temps réel les images captées. Et puis, elles pourraient être gardées 30 jours minimum. Rien n'est exclu concernant le traitement de ces images par des logiciels de reconnaissance faciale. Pour rappel, il existe un fichier depuis 2012 de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ, qui contient entre 7 et 8 millions de photos prises de face. Une sacrée ouverture à la reconnaissance faciale en temps réel et tout ce qui en découle. identification en temps réel de l'identité des manifestants, manifestantes, et du coup, garde à vue préventive, interpellation, fouille au corps, confiscation du matériel, etc. Vu du ciel, il pourrait aussi traquer des individus et des groupes, les suivre et diriger les policiers au sol, etc. Cette loi est déjà vivement critiquée parce qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, aux libertés d'information, de communication, etc. Enfin, l'article 24 annonce qu'on pourrait être sanctionné de 1 an de prison et de 45 000 euros d'amende si on fait un usage malveillant d'images de policiers ou de gendarmes. Soit plus précisément, rendre interdit le fait de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Cette disposition attaque directement la liberté de la presse et le travail des journalistes qui couvrent les manifestations. Déjà que la police en général s'auto-octroie bien souvent un droit à ne pas être filmée, qu'elle n'a pas encore. Mais alors une loi pareille ne pourrait qu'amplifier ça et rendre l'opposition à être filmée systématique en jouant sur le flou du terme « usage malveillant ». Il est déjà très difficile d'obtenir justice face aux violences policières lorsqu'il y a des images, mais en empêchant la prise, ce sera encore pire. Il ne sera plus possible, photos et ou vidéos à l'appui, d'identifier un policier violent. Cette loi de sécurité globale constitue au final une énorme attaque contre nos droits et nos libertés, renforce le pouvoir répressif de l'État, l'impunité policière et la surveillance de masse.
Et on est donc dans les studios, retour dans les studios, et on remet nos micros à peu près normaux. On a un peu bâclé la préparation de ces infos, faut le dire. On a donc quelques brèves. Les lycées ces derniers jours ont été bloqués en région parisienne notamment, mais aussi un petit peu à Lyon, par exemple le lycée Saint-Exupéry sur le plateau de la Croix-Rousse, dans d'autres villes aussi. Les policiers sont venus manu militari virer les lycéens extrêmement violemment. Des images d'ailleurs qui, si on en croit ce que vient de nous dire notre camarade, ne pourront plus circuler bientôt sur les réseaux sociaux, ces images de violences policières qui ont contribué à montrer au grand public ce qu'était la réalité de la police dans ce pays. Lycée bloqué donc, et du coup le ministère de l'Éducation nationale a réagi à ces blocages, soutenu en partie par les professeurs, par une annonce, celle de dédoubler les classes en lycée qui tournent souvent entre 35 et 40 élèves par classe, en lien, ce dédoublement et ces blocages d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, en lien avec l'augmentation de la circulation du virus. Donc voilà, à la rentrée de lundi, dans la plupart des lycées de France, les classes seront dédoublées et les lycéens et lycéennes devront suivre une partie de leur enseignement, c'est-à-dire plutôt la moitié, en visio, ou en tout cas chez eux, et travailler chez elles et eux. Autre brève, hier Emmanuel Macron s'est rendu à la frontière franco-espagnole pour annoncer le renforcement du contrôle aux frontières, faisant ainsi une analogie très claire entre les migrants, les exilés qui arrivent sur le territoire français, et le terrorisme, puisque dans son discours à la frontière, il a parlé du renforcement des frontières en vue de lutter contre le terrorisme. De 2400 flics et gendarmes, on passe à 4600 flics et gendarmes pour contrôler les frontières. Et d'autre part, il a annoncé qu'il demanderait au Conseil européen, là où se réunissent tous les chefs d'État des différents pays de l'Union européenne, un renforcement des frontières de l'Union européenne contre leur passage illégal. Voilà pour les brèves, c'était très bref. Et puis cet après-midi, on a eu au téléphone un camarade qui revient avec nous sur l'histoire de Vincenzo Vecchi. On en a déjà parlé sur Radio Canu, y compris aux infos. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette histoire. Eh bien, c'est donc l'occasion de revenir sur ce qui arrive à ce garçon.
Allô.
Allô Arme, est-ce que tu pourrais nous présenter Vincenzo Vecchi et les problèmes judiciaires qui sont les siens?
Alors Vincenzo Vecchi est donc un ressortissant italien, un quadragénaire, électricien, je crois, de formation, oui, et qui est arrivé en Bretagne il y a 9 ans maintenant, puisque c'était en 2011. Les problèmes judiciaires qui sont les siens, alors actuellement, en fait, c'est que on a découvert, nous, il y a un an, qu'il faisait l'objet de deux mandats d'arrêt européens qui ont été émis par l'Italie en 2016. Il avait effectivement quitté l'Italie en 2011 avant un jugement en appel où il voyait qu'il allait être de toute manière condamné. Ces ennuis judiciaires ont commencé en fait en décembre 2002 où il a été accusé d'avoir fait des actes de violence et de destruction aux manifestations contre le G8 de Gênes de juillet 2001.
D'accord.
Donc sur le coup de juillet 2001, il a participé à ces manifestations contre le G8, mais 16 mois plus tard, il découvre qu'il fait l'objet de poursuites de la part de la justice italienne pour des actes qu'on lui prête de destruction de biens, de mobilier public et de choses comme ça.
D'accord, très bien. Et puis il y a, je crois, une autre histoire que lui reproche la justice italienne qui est liée à une manifestation, cette fois-ci 4 ou 5 ans plus tard, à Milan.
Oui, en 2006. Il a effectivement participé à une manifestation non autorisée. C'était une manifestation antifasciste qui s'est improvisée un peu. Mais ils n'avaient pas obtenu l'autorisation effectivement des autorités italiennes. Elle s'était organisée contre une manifestation fasciste qui, elle, avait été autorisée alors que le fascisme est interdit en Italie, ce qui peut se comprendre. Donc il a toujours reconnu avoir participé aux manifestations de Gênes, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs, et à la manifestation de Milan. Effectivement. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais d'un point de vue juridique, en Italie, ce n'est pas un problème, puisque la simple présence dans une manifestation où il y a eu dégradation implique une complicité de soi-même dans ces dégradations matérielles, sauf si on a exprimé de façon manifeste qu'on se désolidarisait de ces actes de dégradation.
Donc pour le dire clairement, si on est en Italie dans une manifestation où il y a de la casse, le fait d'être dans cette manifestation fait de vous juridiquement un casseur.
Tout à fait.
Et ces lois, dis-moi si je me trompe, hein, mais je crois qu'elles sont les héritières directes de l'époque fasciste italienne et des années 30 de Mussolini, quoi.
Oui, ce sont des lois fascistes, tout à fait, qui avaient été édictées pour éviter des actions subversives contre le régime fasciste. Il s'agissait réellement de porter atteinte à la sûreté de l'État. Là, on lui reproche des dégradations de biens publics qui ne portaient évidemment pas atteinte à la sûreté de l'État, et surtout, il n'y a aucune preuve contre lui. C'est d'ailleurs pour ça que j'anticipe un peu, mais il, même aujourd'hui où je te parle, pèse encore sur lui des faits qu'il n'a reçu aucune preuve, mais pour lesquels il encourt encore de la prison. Alors, les titres d'accusation sont dévastation et pillage, ou saccage suivant les traductions, et puis aussi apparemment l'utilisation d'armes, notamment de cocktails Molotov, je crois. Les preuves, il n'y en a absolument aucune. On a réussi avec beaucoup de mal à les obtenir cet été. Après un an, et en fait, parce que les autorités françaises également avaient demandé des éléments sur quoi reposaient ces accusations, ils nous ont envoyé des tas de photos parce que Vincenzo avait fait l'objet d'une surveillance grande après les manifestations de Gênes, mais on n'y voit strictement rien. Et pendant les manifestations, le type de preuve, il y a par exemple une photo où on le voit boire une canette devant une boutique qui avait été au préalable dévastée et pillée, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que la vitrine cassée, je pense, et puis des biens volés, effectivement. Mais voilà, c'est évidemment pas une preuve ni de saccage ni de vol, mais c'est sur ça que s'est appuyée l'accusation italienne. Et surtout, à l'époque, la défense italienne avait demandé d'avoir accès aux vidéos de surveillance de la boutique, par exemple. Et ça, ça lui a été refusé. Et donc, justement, il n'y a aucune preuve tangible et aucun moyen pour la défense n'a été donné pour pouvoir vérifier la véracité des dires de l'accusation et de la police en particulier. Or, on sait en plus, notamment sur l'utilisation de cocktails Molotov par les manifestants, qu'il a été prouvé à plusieurs reprises que ça avait été des preuves fabriquées par la police. Ça, c'est tout à fait attesté.
Très bien.
C'est-à-dire que des policiers avaient déposé, avant d'investir un lieu, notamment les lieux de résidence des manifestants de Gênes, à l'école Diaz, par exemple, la police avait fabriqué des preuves pour accuser les manifestants de volonté de destruction. Et donc avaient déposé, sciemment évidemment, des cocktails Molotov, par exemple.
Ou d'ailleurs, les militants à l'école Diaz avaient été sévèrement tabassés par la police en 2001.
Ah oui. D'ailleurs, il a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme qu'il y avait eu des actes de torture. Parce que les manifestants ont été sauvagement sortis de ce lieu qui était un lieu de résidence, hein, tout bêtement organisé, tout à fait prévu, emmenés au poste, sauvagement tabassés. Il y a eu énormément de blessés. Certains ont dû être hospitalisés et on sont retournés au commissariat pour resubir des séances de torture. Mmh. C'est vraiment une page noire de la justice italienne qui est venue au jour, évidemment.
Et justement, oui. Excuse-moi de te couper. Et justement, à la fin des années 2000, donc, avec ces histoires judiciaires qui lui courent aux fesses, Vincenzo choisit de venir en France.
Oui.
Et il s'installe où ? C'est quoi sa vie, là, à ce moment-là ?
Alors, il s'est installé dans un village du Morbihan qui s'appelle Rochefort-en-Terre. Sa vie, il fait des petits boulots, il aide beaucoup, notamment puisqu'il est électricien et puis qu'il fait de la peinture, il fait du bricolage, des choses comme ça. Quand il s'est fait arrêter, d'ailleurs, il repeignait la salle de bain d'une amie. Et il travaillait effectivement au noir, hein, je pense. Mais voilà, il n'était pas du tout clandestin pour le coup, parce que c'était ce qu'on lui a reproché. Lui avait même demandé aux autorités italiennes des papiers parce qu'il avait perdu sa carte d'identité. Et les autorités italiennes les lui ont refusé en lui disant « Ah ben non, vous avez une peine à purger en Italie, il faut que vous rentriez en Italie, on ne va pas vous donner des papiers. » Mais pour dire à quel point, moi je l'ai appelé jusqu'à il y a 2 ans Vincenzo. Alors on a pris l'habitude petit à petit à l'appeler Vincent. Mais c'est venu de nous, de ses amis en Bretagne, petit à petit. Il a une forte volonté de s'intégrer. Il a toujours un accent italien, mais enfin, voilà, il vit avec nous. Quand il est arrivé, moi je l'ai vu la première fois, je pense, à une fête de chorale en mai 2011, où voilà, il a participé, comme tous les gens du village, à la construction de la scène, à la mise en place de la sono, de l'électricité, des lampes, et à l'accueil de toutes les chorales qui venaient de toute la Bretagne et d'un peu au-delà. Moi, j'arrivais de Paris avec mes amis chanteurs, et puis il y en avait qui devaient arriver de Marseille, j'imagine, et peut-être même d'Italie, déjà à l'époque. Mmh. Mais voilà, donc il y a une vie associative très, très riche dans ce coin de Bretagne, comme dans beaucoup d'endroits en Bretagne. Et il a été hébergé, on l'a trouvé sympathique, et il est resté tout bêtement.
Et alors, à quel moment il se fait attraper par les autorités françaises, et pourquoi la police française le recherche-t-il à ce moment-là ?
Alors, il s'est fait arrêter le 8 août 2019. La police française le recherche du fait des 2 mandats européens émis par l'Italie. L'Italie signale aux autorités françaises qu'il est en France, qu'il a été repéré. En fait, il a vu son ex-compagne et sa fille, je crois, dans les Alpes. Il s'était pris un rendez-vous, mais il se cachait plus beaucoup parce que je pense qu'il était fatigué de jouer avec les autorités. Et voilà, quoi. C'est comme ça qu'il a été repéré. Il s'est fait arrêté en pleine campagne dans un endroit vraiment très discret, improbable, du côté de Malensac, enfin des villages comme ça de ce coin du Morbihan, entre Questembert et Redon, on peut dire. Mais vraiment perdu en campagne par, je crois qu'il y avait 6 voitures, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était énorme. Et il y avait manifestement deux compagnies, celle justement, une de la police locale, j'imagine, et puis des gens du service des fugitifs ou des personnes recherchées.
D'accord. Et donc ça, c'était en 2019
Oui, il est tout de suite incarcéré. C'est là d'ailleurs, puisque cet ami chez qui il était nous a appelé, a dit, ben voilà, des flics ont débarqué comme des cow-boys un peu, et ont emporté Vincent, je ne sais pas où. Donc on l'a recherché d'abord dans les différents commissariats du Morbihan, et on le trouvait pas. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée, mais il n'est peut-être pas dans le Morbihan. Si c'est le service des personnes recherchées, il a peut-être directement été envoyé à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et c'est là qu'on l'a découvert. Il était à la prison de Vaison-le-Coquet. Il a connu le sort de beaucoup de prisonniers, je pense. Donc il a été enfermé en prison. Il n'avait pas de vêtements de rechange. Donc il s'est fait arrêter un jeudi, je crois qu'on a pu lui donner des vêtements de rechange que le lundi matin. Et puis c'est le vendredi que lui a été notifié le fait qu'il était recherché du fait des deux mandats d'arrêt européens qui pesaient sur lui, émis par l'Italie.
D'accord.
Alors nous, à ce moment-là, on s'était réunis, on se réunissait, on avait trouvé très vite, dès le premier jour, on a trouvé un avocat. Son arrestation, elle devait passer comme une lettre à la poste, hein. Parce que trouver un avocat un jeudi 8 août ou un vendredi 9, je vous assure que c'est pas facile. Il se trouve que par les relations, on a réussi à en trouver, et ça a été le premier grain de sable qui a arrêté la machine judiciaire. Mais très vite, il devait aller très vite en Italie pour purger 12 ans et demi de prison. Il servait manifestement, c'était un élément de la campagne électorale que commençait Salvini, qui était alors ministre de l'Intérieur en Italie, et qui pensait pouvoir devenir président du Conseil. Sa manœuvre a échoué, mais d'un point de vue politique en Italie, mais clairement, il voulait faire de Vincent un trophée pour dire, voyez, comme tous les voyous de gauche, d'ultra-gauche, j'imagine, mais il devait servir de trophée. Nous, ça nous a paru tout de suite bizarre, mais qu'est-ce qu'on lui reproche, c'est pas possible. On a essayé d'en savoir un peu plus. Et en fait, quand les deux mandats d'arrêt européens lui ont été présentés, celui pour Gênes 2001 et celui pour la manifestation de 2000 ans en 2006, tout de suite, Vincenzo a dit, mais c'est pas possible, pour 1000 ans, j'ai purgé ma peine. Donc première surprise et première stupeur. Et donc en appelant son ancien avocat italien et toutes les relations qu'on avait en Italie, on s'est rendu compte qu'effectivement le mandat d'arrêt européen pour 1000 ans concernait quelque chose qui avait été soldé, si vous voulez. Il a fait de la prison pour avoir manifesté, et rien que pour ça, à 1000 ans, comme pour Gênes.
Et alors, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passait jeudi au tribunal d'Angers? Et quelles sont les conséquences de ce qui s'y est décidé?
Alors, Vincent a été libéré une première fois par le tribunal de Rennes en novembre 2019, après 3 mois de prison quand même. Parce que ne lui avait pas été accordée une défense italienne alors qu'il l'avait demandé. Ce qui s'est passé, c'est que le parquet s'est pourvu en cassation. Il a contesté cette raison avancée par le tribunal de Rennes. Et la cour de cassation, pour nous très bizarrement, n'a pas reconnu ce fait. Alors que pourtant, c'est dit très clairement, je crois qu'il a dit, c'est les policiers français qui ont recueilli sa déclaration. Si je dois être remis aux autorités italiennes, je demande à être mis en relation avec tel avocat de Milan, du barreau de Milan. Bon, la Cour de cassation à Paris a refusé cette raison en décembre 2019 et a dépaysé l'affaire à Angers et a demandé à ce qu'elle soit rejugée, revue par le tribunal d'Angers. Ça devait avoir lieu le 23 mars, mais à cause de la crise sanitaire et du confinement, ça a été repoussé. C'est pour ça que l'audience a été repoussée début octobre. Et en octobre, le tribunal a examiné toutes les questions posées par la défense et a dit qu'il nous faut un mois pour délibérer. Et donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'était mercredi, c'est que pour la deuxième fois, un tribunal français déclare que Vincenzo Vecchi ne peut pas être remis aux autorités italiennes. Et là, on est content parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Ce n'était pas juste un vice de procédure. Ces droits n'ont pas été respectés ici en France. C'est le fait que rien n'équivaut dans le droit français à la loi Rocco, cette loi fasciste de dévastation et pillage. Et donc, on ne peut pas remettre aux autorités italiennes quelque chose pour un délit. On ne peut pas remettre une personne accusée d'un délit qui n'existe pas en France, en fait. Donc ça, c'est bien parce que le tribunal d'Angers s'est prononcé sur le fond de l'affaire. Il se trouve en plus que dans les accords des mandats européens, ce qui prévaut, ce sont les lois qui existent au moment des faits. Donc en 2001, la loi anti-casseur n'existait évidemment pas. Donc à ce titre, le tribunal d'Angers a dit on ne peut pas reconnaître le mandat d'arrêt européen pour la loi dévastation et pillage, la loi Rocco, et donc on enlève 10 ans de prison, on ne peut pas faire appliquer ces 10 ans de prison-là, on ne peut pas remettre Vincenzo Vecchi aux autorités italiennes. Alors le souci, c'est qu'il y a d'autres charges, comme justement l'emploi d'armes, alors je ne sais plus comment c'est formulé, hein, mais je crois que ça fait référence à l'usage supposé, présumé de cocktail Molotov. Mais le mandat d'arrêt européen fonctionne sur la base de confiance entre les justices. Et donc les tribunaux français sont censés considérer a priori que la procédure judiciaire italienne a été correcte. Or justement, nous, ce qu'on essayait de faire valoir, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Mais on ne peut pas le faire valoir, le tribunal ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, il ne refait pas le procès. Il n'y a pas d'accusation qui vient et avec ses pièces et la défense qui tente de les démonter. C'est le tribunal français ne se prononce que sur la validité de la demande italienne de remise aux autorités judiciaires du pays. Et donc là, effectivement, en France, c'est interdit de faire des attaques à main armée, par exemple. Mais il y a un reliquat de 2 ans.
Donc de 2 ans d'emprisonnement sur les 12 qu'il y avait, c'est ça ?
Oui, voilà. Ah, évidemment, c'est un mieux. On est très content, surtout que ça casse quand même le fond du mandat d'arrêt européen sur Gênes. Évidemment, c'est inadmissible parce que c'est faux. Notre espoir, un peu, c'est que le jugement français, même dans sa partie négative, est assez nuancé. Il va proposer aux autorités italiennes qu'elles acceptent que Vincenzo finisse de purger sa peine en France, du fait qu'il est reconnu comme résident en France depuis plus de 5 ans. Donc il est logique qu'il fasse sa peine en France, il est comme un résident français. Déjà, c'est une bonne chose. Et il pourrait y avoir un aménagement de peine. Et étant donné les 15 mois, je crois, qu'il a fait déjà de prison en Italie et en France, ça pourrait être environ encore 15 mois à peu près de peine qui pourrait être aménagée. Donc il a un travail, on se dit si il peut continuer à vivre, on espère qu'il pourrait ne pas être incarcéré purger sa peine, je sais pas moi, par une surveillance policière.
En allant pointer au commissariat ou
exactement.
Un bracelet, ouais.
Ce qui serait malgré tout, moi ça me met intérieurement hors de moi, parce que quelqu'un qui n'a rien fait, qui a juste manifesté, n'est pas censé aller pointer pointé au commissariat. C'est évident que c'est quand même un grand soulagement, on est très content. En revanche, notre crainte est de deux ordres. C'est-à-dire qu'on a encore en France, le ministère public peut encore faire appel comme la première fois. Donc nous, on espère que la justice française va avoir la sagesse de reconnaître la validité du jugement d'Angers. Et on espère que le fait qu'un second tribunal se prononce pour la non-application du mandat d'arrêt européen va peser dans la balance, mais on n'est pas sûr. Le parquet a jusqu'à lundi pour demander à ce que la chose soit réexaminée. Donc ça, c'est une preuve, une inquiétude, pardon. L'autre inquiétude, c'est qu'effectivement, si jamais les autorités françaises valident le fait qu'il n'y a plus que une quinzaine de mois de prison à faire, mais acceptaient que Vincenzo Vecchi soit remis aux autorités italiennes. S'il est remis aux autorités italiennes, on ne fait absolument pas confiance aux autorités italiennes qui ont déjà menti de façon évidente, qui l'ont reconnu hein, d'ailleurs. Le mandat d'arrêt européen pour se justifier concernant Milan, elles ont dit que c'était pour que le tribunal comprenne bien que c'était un dangereux individu, qui n'en était pas à sa première exaction en quelque sorte, donc un dangereux récidiviste. Et donc on a peur que si jamais les autorités italiennes disaient « oui, on est d'accord pour réduire sa peine à 2 ans », qui serait commué en un an et quelques mois. Et puis, pour finir, une fois qu'ils sont en Italie, ils disent « Ah ben non, c'est pas possible, les 10 ans, il a quand même été condamné pour les manifestations de gêne, à dévastation et pillage, il faut qu'il le fasse ». Ça a déjà eu lieu, ce genre de choses. Mais notre crainte la plus immédiate, ce serait que les autorités françaises demandent à nouveau à réexaminer cette décision du tribunal de d'Angers. On espère que le ministère public aura la sagesse de ne pas remettre en cause à nouveau ce jugement d'Angers cette fois-ci et de le garder en l'état, de le valider. Nous saurons lundi si les autorités françaises décident de réexaminer le jugement du tribunal d'Angers ou s'ils le valident. Donc ça, pour nous, c'est le premier rendez-vous important. Le second rendez-vous important, c'est que le tribunal d'Angers a demandé a donné du temps plutôt aux autorités italiennes jusqu'au 30 novembre pour réagir à leur jugement, notamment s'ils acceptent de reconnaître, ce qui serait très intéressant, que Vincenzo Vecchi ne peut pas être condamné aux 10 ans s'ils acceptent que le reliquat de peine soit purgé en France avec des aménagements de peine. Ce sont nos deux attentes, lundi prochain et puis le 30 novembre.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Vincenzo, j'en parle aujourd'hui parce que c'est un ami, mais il y a quand même 9 autres personnes qui ont purgé des peines en Italie pour les mêmes motifs. Des personnes qui se sont fait prendre un peu au hasard parce qu'elles ont manifesté à Gênes, et c'est très clair qu'il y a une tentative d'intimidation de la population et de remise en cause, y compris des fondements démocratiques, des régimes et des lois supposées protéger les ressortissants de nos pays. C'est très clair qu'il est très difficile pour un individu seul d'affronter une machine judiciaire. Vincenzo Vecchi a eu la chance que un comité de soutien très actif avec des relations, notamment dans le monde judiciaire, ait pu se monter en quelques heures. C'est évident que il y a très peu de chances que ça arrive, donc c'est important que ce cas-là puisse faire jurisprudence.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça. Et puis, sur les ondes de Radio Canu, on donnera les nouvelles lundi du rendu du procès.
Très bien. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup à vous. Vraiment, c'est important pour nous de faire savoir cette histoire. Et pour vos auditeurs.
Et donc le rendu du procès, ben c'est pas tant le rendu, mais c'est la décision du ministère public quant au rendu du procès d'Angers, qui devait tomber lundi, est en réalité tombé tout à l'heure. Alors Arnaud nous a rappelé.
Nous venons tout juste d'apprendre que le procureur se pourvoyait en cassation. Nous sommes effondrés. Parce que le jugement du tribunal d'Angers nous a donné beaucoup d'espoir. Il faut reconnaître que le tribunal d'Angers a fait un magnifique travail. C'était une réflexion approfondie, nuancée. Par certains aspects, c'était difficile à accepter, puisque je te le disais tout à l'heure, il y a quand même la validation d'une partie de la peine pour notre ami Vincenzo. Mais au moins, on avait le sentiment que la justice progressait et qu'il y avait un vrai souci de justice. Donc, nous venons d'apprendre que l'avocat général se pourvoyait en cassation, ce qui nous atteint beaucoup, ce qui est complètement absurde. Enfin, cela relève de l'acharnement judiciaire. On a l'impression que le ministère public dit qu'on peut poursuivre quelqu'un pour avoir manifesté. Je suis très ému.
Oui, je comprends. Du coup, juste peut-être rapidement, si tu as envie, hein, Arnaud, c'est quoi là les prochaines étapes ?
Alors, donc la cassation, ce sera une cassation plénière, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, parce que ce ne sera pas comme en décembre 2019, un jugement par 3 juges. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a au moins 10 juges, entre 10 et 15, il me semble. Et donc ça va prendre un peu de temps pour réunir cette assemblée. Donc ce ne sera pas avant fin décembre, début janvier. Et puis l'autre élément, c'est que nous, on ne connaît pas encore sur quels éléments s'est appuyé le procureur pour mettre en cause le jugement du tribunal d'Angers. Donc il faut qu'on voit, lui, ce qui ne lui convient pas et ce qu'il attaque. Et donc la défense, je pense, va se construire en fonction aussi de ce qu'a pu relever le procureur. C'est vrai qu'on trouve que c'est une décision terrible, une responsabilité très grande qu'ose prendre la justice française, en tout cas le ministère public. Parce que voilà, on sait que notre ami, il peut rester en prison jusqu'en 2033 si jamais on le revient aux autorités italiennes. Tout ça parce qu'il a manifesté à Gênes en 2001. Et voilà, et en plus, il se trouve que c'est. Il a manifesté pour des préoccupations que tout le monde reconnaît à présent comme valides et importantes. Donc, voilà.
Et donc, pour se faire pardonner de ce son de téléphone qui aura parcouru, le Canu Info, bien que les informations étaient évidemment extrêmement importantes, et on remercie. Encore Arnaud, pour se faire pardonner donc.
Et pour réparer vos oreilles, on va vous quitter en musique avec en bande organisée le titre de rap français le plus écouté cette année, je ne sais pas si c'est cette année, mais a été repris récemment par une bande de rappeuses marseillaises. Et on écoute donc cette reprise en bande organisée. Et bonne soirée et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour une émission spéciale. Elle sera avec beaucoup de contenu. Celle-ci.
Oui, ma gâtée, donnant sur la moto. Bien sûr, je vais les choquer. J'ai l'accent de ma ville sur le Pradel, cigarillo. Je vais te descendre, Carignan, je vais te descendre. Bouta où t'étais quand j'étais solo, tu m'appelais le sang. Hein? Tu veux nous faire la guerre? Par Dieu, t'es cuit. Je prends de la conduite, on est des bonnies, qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux faire un feat quoi? Tu veux m'arnaquer ou? C'est Marseille bébé, je peux pas t'aider ou? Wesh alors les meufs, tranquille ou quoi? Graine dans la côte, on zone, on a tous les droits. Paralysé, je vais les blesser, je l'attrape, c'est sûr, je vais localiser.
J'ai jeté la bague à Chiquito, 2 heures après je l'ai blacklisté. T'es un petit mytho, j'ai pêché le présent en claque, ça m'appelle pour kicker. Oublie-moi si tes bails sont pétés. Je suis ailleurs, je trouve de bise à gérer. Depuis tout à l'heure que je nique des briquets. Je cavale trop, je suis picao. J'ai mes gueules qui bicravent au chaos. Là c'est chaud avec mes dem dem dem. Toujours là, demande à l'ISO. Je suis dans le game, y'a rien à faire, je m'embête. Je foque les traites qui parlent de moi sur net. Je suis dans le son depuis longtemps, faut que je pète. Au fait, si je pète que du liquide, pas check. J'ai commencé le rap, j'avais même pas one. Et maintenant rien que je te pointe. Yo, je viseur, c'est l'usine. Je ferais mieux de rester assise. Je vais les 100 pas et je bois un coup. Je roule là-bas jusqu'à Congène. J'ai pas le temps là, je suis maman, je cavale trop, je survolte. Je connais bien l'animal de mon département. N'imagine pas que je serai ta go. Ça fait Zumba, café, café, carnaval. J'avais fit 24 tarés. Ta piste, c'est pas banal. Et ça fait Zumba, café, café, carnaval. J'avais fit 24 tarés. Ta piste, c'est pas banal. On trouve des madames. Marseille dans l'âme. Si t'aimes pas, je te dis salam. Mimi, je milite comme Mélanie. C'est le premier son, c'est pas fini.
Ya, ne me parle plus d'amis. Ya, on est devenu ennemis. Ya, j'ai la tête pleine, tu me suis. Veux me canner, veux m'enculer, mais c'est pas pour cette vie. Ya, comportement, je déconne. Ya, je m'emporte avec les hommes. Ya, t'as bugué sur mes formes. Forme, tu me niques, t'en fais des tonnes. Car t'es mauvais. Au lit, en plus, t'es mauvais. Ton coup de rein est claqué. Pas que tu me sautes, oh oh, t'as j'ai pas bête que tu loues, oh oh, oh oh oh. Wesh, on est trop déter, tout ce qu'on veut c'est sortir de la dèche. J'suis dans le sens, c'est dur, mais j'garde la pêche. Moi j'ai pas de sentiment, quand j'vois ton vice, des idées me hantent. Toi tu me prends pour une conne, en moins de deux, j't'ai bloqué de mon fun. Pétard, joint de bœuf, j'suis parano, j'vois dans ton jeu. Autour de moi y'a que des traîtres, y'a toujours un pour te mettre en feu. Tous les rageux, je m'en fiche. Moi j'ai un dent et je m'en fous, je l'affiche. Y'a que des frères, des frères, des frères. Vous êtes pas la série à Merlich. Ils se prennent tous pour des vents. La maison, pas un que des. Y'a sur l'instru, on fait cas. Là j'en ai trop loin, j'ai un stress. Je fais tout pour la maman. Moi je sors les armes, y'a pas de nanana. Ça marche en équipe. Et dans le crew, y'a que des nanas.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée.
En bande organisée, dédicace au comité donc Vincenzo Vecchi en bande organisée contre la justice italienne. Et nous, on vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à 20h, c'est Noise Pollution. Et là, pour le moment, c'est les bandes continues de Radio Canu.